Investigation, Justine Katz.
Aujourd'hui dans Investigation, on vous emmène dans la vallée de la Vesdre. C'est là, entre Peine et Liège, que les inondations du 14 et du 15 juillet 2021 ont été les plus dévastatrices. Cette nuit-là, des trombes d'eau se sont abattues sur toute la Wallonie. Au total, 39 personnes ont perdu la vie. Près de 100 000 ont été touchées par ces inondations. Les dégâts, eux, sont colossaux, estimés à plus de 2 milliards d'euros. Jamais notre pays n'avait connu pareil bilan après des pluies diluviennes. Alors, aurait-on pu éviter ça? Comment faire mieux à l'avenir? Où en sont les réparations? Et surtout, comment se portent les sinistrés? Alain Vassen, vous êtes journaliste à Investigation. Vous avez enquêté sur la gestion de cette crise. Un an après, vous êtes retourné sur le terrain dans cette vallée de la Vesdre, l'une des plus touchées l'été dernier. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette enquête?
Alors, ce qui est extrêmement frappant après un an, c'est quelque chose qu'on n'avait pas perçu dans l'immédiat des quelques semaines qui ont suivi la catastrophe. C'est combien tout cela va marquer dans la durée, tant au niveau des infrastructures, les routes, les berges, qui ne sont pas encore réparées partout, malgré qu'on travaille intensivement, et puis dans les têtes aussi des habitants. On constate un an après que tout est encore très présent. Dans la vallée, par exemple, il y a encore des endroits, quand on circule en voiture ou on passe en circulation alternée, c'est-à-dire que même quelqu'un qui devrait descendre ou monter la vallée quotidiennement est encore embarrassé dans sa manière de se déplacer. Et donc, ce qui est probablement le plus important maintenant, c'est d'assurer dans la durée toute une série de choses qui ont été mises en place, tant dans les travaux que dans les aides, notamment psychologiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas perçu immédiatement quand on était dans les secours et dans les premières interventions.
Un an après, la nuit du déluge, c'est notre investigation du jour. Elle est signée Alain Vassen, Francesco Damanti et Francis Leclerc.
Je vois la voiture de ma mère devant la maison et elle s'est remplie d'eau, et au bout d'une heure, tout doucement, elle s'est déportée et elle est partie dans la Vesdre. C'était vraiment inimaginable.
Un torrent d'eau qui entoure les maisons avec un bruit très très fort, des alarmes qui sonnent partout, une panne de courant donc dans l'obscurité toute la nuit du mercredi au jeudi.
Quand vous avez des appels à l'aide et que vous dites montez au premier étage et on vous répond mais on habite dans un bungalow, on n'a pas de premier étage.
Les militaires sont arrivés à 22h et à 4h du matin, le lieutenant m'a dit qu'on ne saurait rien faire. Les flots sont trop hauts, l'eau est trop puissante, on a détruit nos bateaux, on risque nos vies et celles des gens à les sauver.
Tous les rez-de-chaussée ont été balayés, emmenés dans la Vesdre. Ce n'est pas une eau qui monte simplement, c'est une eau qui vient chercher tout. Et donc il y a une détresse immense.
Quand on voit l'étendue des dégâts, on se croit dans un film de guerre.
4700 personnes touchées. Comment est-ce que vous voulez évacuer 4700 personnes alors que vous êtes peut-être 20 ou 30 sur place et que l'administration elle-même était détruite? On n'avait plus d'hommes, plus de véhicules, plus rien. On a vécu l'enfer, hein.
L'enfer dans toute la vallée de la Vesdre en juillet 2021. J'y avais passé plusieurs jours à ce moment-là. Partout, c'était la désolation. Mais le courage des habitants aussi avait frappé tout le monde. Je décide donc de retourner les voir un an après dans quel état est la vallée, comment vont ses habitants, est-ce qu'ils sont enfin apaisés par rapport à ce qui s'est passé, est-ce qu'ils sont inquiets. Je vais d'abord chez Marc Poncelet. Il habite à Chaux-Fontaine, je me souviens de lui parce que dans l'après-midi du 14 juillet, il pleuvait déjà beaucoup. Il avait été alerté par des animaux, des oies, qui l'avaient intrigué. Il s'en souvient aussi d'ailleurs.
Quand j'ai vu les oies remonter dans le bois, ici le petit chemin qui est en face de vous, ben, toutes les oies remontent à la queue dans le bois. Et c'est là qu'on commence à se dire, ouais, on commence à se fracasser.
Ici on est dans votre jardin derrière, c'était spectaculaire.
Ah, pour être spectaculaire, oui. On avait de l'eau ici qui montait. Quand on voit la petite barrière ici derrière, elle est à plus de 6 mètres de haut ici, quoi. J'ai jamais vu ça, hein.
Un an après, comment est-ce que les habitants ici vivent ça?
Il y a beaucoup, beaucoup de maisons à vendre.
Beaucoup d'émotions encore.
Oui.
Des gens qui sont partis et qui ne souhaitent pas revenir.
Ils ont peur. Ils ont peur de voir remonter ça, alors que je ne crois pas que ça va encore arriver de mon vivant, en tout cas non.
Il y a eu une commission parlementaire, il y a eu des explications dans les médias. Pour vous, ça reste inexplicable ?
C'est inexplicable. Les explications parlementaires, on en fait ce qu'on veut, mais moi je ne crois pas à Fiefimo de ce bazar, quoi. Quand on a vu monter ça, c'est pas possible. Il y a une erreur humaine quelque part, ils ne veulent pas l'admettre, c'est tout.
Les perturbations climatiques et des intensités qu'on n'avait pas beaucoup connues, vous n'y croyez pas trop ?
Si, il y en a, mais des règlements climatiques, on va le faire pour tout alors. Hein. On ne peut plus avoir d'été chaud parce que c'est des dérèglements climatiques. Je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut s'arrêter de rire, regarder les choses en face et qu'on regarde que l'homme est coupable, certainement, mais de tout ce qu'on fait, de la nature. Construire partout, ne plus faire attention, ne plus avoir de bassins d'orage, arracher les haies. Ça qu'on y regarde avant. On verra dire après qu'il y a un réchauffement climatique, oui, mais qu'on arrête de détruire la nature. C'est nous autres qui rendons sa affaire. Ainsi.
Je vais partir pour monter plus haut dans la vallée, mais Marc Poncelet a encore un truc à me dire, un truc qui l'agace.
On reçoit des SMS, des assurances, même maintenant. Je ne vais pas dire l'assurance, parce que ça n'intéresse pas, c'est tous les mêmes, de toute façon. Faites attention, l'eau va monter, sauvez tout ce que vous pouvez sauver, comme ça nous autres on n'intervient plus, vous êtes prévenus. Et je crois que c'est ça qu'ils veulent faire passer comme message. On a du vent, il faut rentrer tout, il faut faire attention. Je ne comprends plus, ils essayent de faire peur aux gens, ou alors ils s'y prennent très mal, et le jour où ça va arriver, on ne va plus faire attention encore une fois, parce que trop d'alerte tue l'alerte.
Je remonte toute la vallée en voiture et je suis quand même surpris. Un an après, il y a encore énormément de traces de la catastrophe. Il y a des débris de bois devant des maisons. Il y a des maisons dont on voit bien qu'elles n'ont pas encore pu être réparées. Les ponts, tous les ponts, sont encore abîmés ou avec des traces de travaux, des barrières. Marc Poncelet m'a dit que des habitants avaient peur de revenir. Mais j'entends dire aussi que les maisons se louent ou se vendent bien. Ça m'intrigue, évidemment. Je vais aux nouvelles dans une agence immobilière.
Bonjour.
Monsieur Caluta.
C'est bien moi. La personne de l'ATBF, bonjour, Jean-Té.
Groupe Cadimo, bonjour. Oui, bien sûr. C'est une maison 3 chambres à coucher qui fait exactement 130 mètres carrés de surface habitable.
Est-ce qu'il y a des acheteurs ? Quel est l'état du marché immobilier dans la vallée ?
Ce que je vais vous dire, c'est incroyable, c'est que le marché est exceptionnellement bon. Énormément de ventes se font et se feront encore dans les mois à venir. Beaucoup se disent, même si on n'en a pas encore des preuves, que c'est une erreur humaine, qu'on va en tirer les leçons, que ça ne reviendra plus. Et les entrepreneurs, ou les acheteurs en tout cas actuels, ont ça dans la tête, oui. On va rénover les maisons, on va les mettre en location quelques années, et quand ce sera le moment, on les revendra, on fera une plus-value, et on repartira ailleurs.
Quel type de location est-ce que vous recherchez ? Oui, maintenant elle a été complètement rénovée.
Quand quelqu'un met son bien en location, est-ce qu'il peine à trouver des locataires ?
Absolument pas, ça va relativement vite. L'offre est largement inférieure à la demande, donc inondation ou pas, ça se loue toujours très 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 rapidement, oui.
Tout le monde n'a donc pas peur d'habiter sur la Vesdre. D'ailleurs, Laetitia Dasnois, que je croise à Peupinster, va m'en parler. C'est une jeune maman, elle a 2 enfants en primaire, elle a vécu les inondations, mais elle habite de nouveau là.
On est parti 7 mois chez ma maman vivre à Teux, le temps que les travaux se fassent.
À aucun moment vous n'avez envisagé de ne pas revenir ?
Non, pas du tout. On est revenu avec les enfants parce qu'eux, ils demandaient pour revenir ici et revoir leurs copains et revenir dans leur chambre. Donc voilà, c'était important pour eux et pour nous.
Et vous êtes rentrée sans appréhension ?
Au début, moi j'avais très très peur, mais au fil du temps, on a fait avec et on a mordu sur notre chèque, voilà.
Certains me parlent de la date anniversaire, ça les tracasse.
Pas du tout, moi. Je pense que voilà, il faut quand même passer au-dessus. Maintenant, oui, ça restera, mais ça ne me préoccupe pas.
Je discute avec tous ceux que je croise et on me parle presque à chaque fois d'une erreur humaine. Je commence à me dire que le barrage de Penne, tout au-dessus de la vallée, est resté pour beaucoup le grand responsable de la catastrophe. On l'avait accusé d'avoir relâché de l'eau brutalement. Alors on sait aujourd'hui que la seule eau qu'il a laissée passer la nuit du 14 au 15 pendant quelques heures, parce qu'il était à saturation, c'était la pluie elle-même, rien de plus. Rester sur l'idée d'une erreur humaine au barrage qui aurait entraîné la catastrophe, peut-être que ça rassure. On ne fera plus l'erreur la prochaine fois et donc on est tranquille. Je décide de monter à Dolin. J'avais croisé là, il y a un an, deux dames très remontées contre le barrage. Je suis curieux de savoir ce qu'elles en disent aujourd'hui. Elles m'ont donné rendez-vous au café au Grand Charmont, en plein centre de Dolin. Il fait très beau aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à la terrasse. À mon avis, elles m'attendent à l'intérieur. Dans la vallée, on a l'habitude des inondations, mais celle de l'année dernière, c'était pas comme d'habitude ?
Oh non. La plus qu'on a eue, il y a quelques années, il y avait ça.
Je suis depuis ma naissance, mes parents et mes grands-parents. Donc non, jamais, jamais, jamais. L'eau dans les caves, on connaissait. Nous, on est persuadés que c'est la charge du barrage de Pen.
Malgré tout ce qui a été donné comme explication, malgré toutes les enquêtes qui ont été menées, ça reste votre idée ?
Bien sûr que oui, quasiment certaine. Oui. C'est impossible que le barrage n'est pas en cours, c'est impossible.
Et donc, si on fait attention à ça, ça ne se reproduira pas ?
Mais non, ça, je ne suis quand même pas sûre à l'heure actuelle. Mais ce qu'on a eu à ce point-là...
Est-ce que la vie à Dolin va reprendre comme avant ou est-ce que ça ne sera plus jamais tout à fait comme avant ?
Je dis que ça ne sera plus jamais comme avant. Il n'a plus la même vie dans les rues de Dolin et tout ça, non.
Oui, mais c'est tout, ça va reprendre, non ?
Je l'espère, mais pour le moment, non.
Tu vas à l'avenue, la moitié est vide. Tu vas à Rue Wilson par là, la moitié est vide. Oui, c'est plus comme avant, hein, Chantal.
Je laisse là Chantal et Sibylla. Et puis comme je suis à Dolin, je passe à la maison communale. Je me souviens que l'an dernier, encore sous le choc des inondations, la bourgmestre, Valérie Dejardin, m'avait dit ceci.
Quand il pleut, je ne dors pas bien. Mes concitoyens ne dorment pas bien non plus. Quand on annonce de l'orage, on vérifie tout ce qu'on peut vérifier. On organise des choses pour voir comment la Vesdre monte, pour voir comment le barrage monte. Mais ce n'est pas une situation qui est vivable sur le long terme non plus.
Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cela, globalement, on est apaisé ici à Dolin ?
Non, parce qu'on sait qu'au niveau infrastructure, tout n'a pas été réparé, donc il manque encore des berges. Et donc, on se dit, s'il pleut encore de trop, on est moins en sécurité que ce que l'on était le 13 juillet l'année passée. On reçoit maintenant des SMS, des mails, on est tenu au courant de la moindre petite alerte, et donc ça nous met tous en état d'alerte et en état de stress.
Sur les causes de la catastrophe, j'entends encore beaucoup dire, c'est évidemment la responsabilité du barrage.
En fait, je pense que la difficulté pour la population, c'est qu'à aucun moment, aucune autorité publique n'a dit « voilà ce qui s'est passé ». Et ça, c'est très compliqué. Un exemple concret, on retrouve, nous, actuellement, dans les berges de Vesdre et dans la Vesdre, des obus qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça veut bien dire que depuis 1945, on n'a plus nettoyé la Vesdre correctement, en tout cas à cet endroit-là. Donc, c'est assez interpellant. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment ça, une explication claire et dire surtout aujourd'hui, voilà ce qu'on met en place concrètement pour que ça n'arrive plus.
Les communes se sont moins senties abandonnées dans l'après que pendant.
C'est vrai qu'on a un bon soutien de la région wallonne. La grosse difficulté, c'est la lenteur des procédures. Et donc là, c'est vrai que même certaines personnes qui souhaitent restaurer leur bien et qui doivent demander un permis, se retrouvent bloquées.
Je cherche quelqu'un qui serait dans cette situation-là. Une maison ravagée par les eaux et toujours dans l'attente un an après. Attente des assurances, je sais que 40% des dossiers ne sont pas encore clôturés. Attente des nouvelles normes, les études et décisions de la région wallonne sur les nouvelles zones inondables ne seront prêtes qu'en 2023. Je cherche et je trouve Véronique de Monti, quadragénaire au moral dans les talons. Elle me donne rendez-vous à sa maison dévastée, toujours dans le même état qu'au lendemain de la catastrophe. Vous êtes juste en bordure de Vesdre, ici ?
Oui, je suis en bord de Vesdre. La maison là où on voit les banderoles, c'est la maison de mes voisins qui, elle, a carrément disparu sur une nuit, quoi. Il leur restait leur baignoire, c'est tout. Et voilà la mienne.
Montrez-moi un peu l'intérieur.
Donc voilà, vous voyez bien ici, tout était terminé, les pâtures, une salle de bain neuve. Et le pire, c'est tout mon séjour, ma cuisine, mon salon, salle à manger, que tout a vraiment disparu, quoi. Et un an après, on est toujours sans une explication vraiment de pourquoi ils veulent nous empêcher de reconstruire, alors que moi, en 40 ans, je n'ai jamais eu une goutte d'eau dans ma maison.
Maintenant, donc, vous êtes toujours logée ailleurs.
Oui, moi, je suis délocalisée. Je suis logée dans une autre commune à Oubelle, où j'ai été très, très bien accueillie. Mais voilà, ça reste que je ne suis pas chez moi. Et surtout, le fait de ne pas avoir de décision concrète m'empêche de me projeter. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas de combien de liquidités je vais disposer. Un jour, je me projette chez moi, un jour, je me projette ailleurs. Et tout ça, c'est l'histoire de ma vie, quoi.
Depuis le début, je me dis qu'il faudra absolument que je passe au barrage, puisqu'il est toujours accusé de tous les maux. J'y vais. Thibaut Mouzelard a accepté de m'y recevoir.
Donc regardez bien où vous mettez les pieds. Donc on est dans la galerie principale, en fait, ici. Donc c'est une galerie qui fait de la rive gauche jusqu'à la rive droite. Et elle est en escalier. Pourquoi ? Parce qu'elle suit la fondation rocheuse, quoi. Donc toutes ces galeries nous permettent d'inspecter l'ouvrage régulièrement.
Nous décidons de monter au sommet pour juger du niveau des eaux retenues par le barrage. Sur le chemin, nous croisons un garde-barrage, Roland Nissen. Il était là, sur le barrage, la fameuse nuit du déluge. Et il n'a pas oublié. Vous, l'année dernière, vous étiez là. C'était une situation pour le moins inhabituelle.
Oui, plus qu'inhabituelle. Et malheureusement, dans des conditions pareilles, il faut arriver à gérer ses émotions. Déjà, voir le barrage comme ça, je le soigne toute l'année, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Et de voir l'eau qui montait et qu'on était impuissant quelque part. La nature est telle qu'elle, on peut lui demander de s'arrêter, si elle n'a pas envie, elle ne s'arrête pas.
Je continue de monter avec Thibaut Mouzelard, inspecteur général des barrages wallons. L'an dernier, on avait aussi reproché au barrage d'avoir entamé la semaine du déluge trop remplie. Les pluies avaient fini par le saturer et pendant quelques heures, ce qui tombait encore avait continué directement vers la vallée. Un peu comme dans un évier, via le trop-plein, le petit trou qui est prévu pour ça, pour que l'eau ne déborde pas si on a oublié de fermer le robinet. Nous sommes maintenant tout au-dessus, en bordure du lac, et le niveau de l'eau n'est pas très haut.
L'objectif, en fait, premier ici, c'est d'avoir suffisamment d'eau pour produire de l'eau potable pendant 2 années de sécheresse consécutive. Et jusqu'à présent, le barrage a toujours rempli cette mission-là, même si on constate que de plus en plus, les années de sécheresse se succèdent et sont aussi de plus en plus fortes.
Est-ce qu'on n'est pas au cœur, là, de ce qui avait fait polémique l'année dernière après les inondations? On ne peut pas libérer autant d'espace qu'on le voudrait pour d'éventuelles crues.
Oui, en effet, il y a un peu un côté quadrature du cercle dans cette double mission de production d'eau potable et de rétention de crues. Pour produire de l'eau potable, on a intérêt à avoir un lac qui est le plus rempli possible, et donc idéalement il devrait être rempli tout au long de l'année. Et inversement, si on veut être capable de ralentir les crues ou de les diminuer, on devrait avoir un lac qui est vide, vraiment comme un bassin d'orage. Et ça, évidemment, faire les deux en même temps, à 100%, c'est impossible. Il faut se fixer des objectifs pour chacune des fonctions et essayer de tempérer alors les crues le plus possible. Mais comme toute infrastructure, comme tout ouvrage, pareil pour un bassin d'orage, il a ses limites. Et à un moment donné, il se peut toujours qu'il y ait une crue plus importante que celle qui était imaginée, qui arrive. Et donc là, le barrage, l'ouvrage sera plein et devra déverser une partie dans la rivière.
Comment est-ce qu'on a vécu la polémique de l'an dernier au barrage ?
Ah, c'est clair que ça a été un moment assez intense et assez dur, aussi humainement, pour pas mal de personnes qui se sont senties ciblées alors qu'ils ont vraiment fait leur travail, je peux en témoigner.
Je quitte le barrage, je reprends la route vers Liège, mais il y a encore quelqu'un que je voudrais voir, Étienne Vendy. Il est président de CPAS et psychologue de formation. Il était sur le pont avec son bourgmestre pendant toute la catastrophe, sur la commune de Trou, une des plus dévastées. Des centaines d'habitants, d'ailleurs, ne sont pas encore revenus. Je m'arrête chez Étienne Vendy et j'apprends que son CPAS gère bien plus de dossiers qu'avant, aidé par du personnel en renfort fourni par la région Wallonne.
Ma volonté d'emblée était de dire « adressez-vous au CPAS, quelle que soit la question que vous vous posez, on rendra une aide ». Donc un CPAS comme le CPAS de Trou ici, c'était 300 dossiers, maintenant c'est 1200 dossiers. Mais tant mieux, hein, tant mieux.
La nature des demandes a évolué avec le temps.
Qu'on était dans des demandes d'urgence, aide matérielle, aide financière, aide au relogement, soutien au relogement, donc monter des cuisines dans les étages, enfin voilà, déménagement. Donc on a vraiment géré les premiers mois comme ça, en engageant du personnel capable de faire ça. Maintenant, il y a un deuxième type de demande, c'est une forme de lassitude par rapport à toutes les démarches qu'il faut faire, les assurances, les experts, les contre-experts, les délais, l'inquiétude aussi, est-ce que je peux reconstruire, comment est-ce que je peux reconstruire, quelles vont être les normes urbanistiques. Et donc c'est plutôt des demandes de soutien moral. Il faut absolument que les gens, après un an, ne restent pas dans une position de victime complète. Alors ce sont des victimes, hein. Voilà, ce sont des victimes. Mais il faut essayer de sortir de là par le haut. Ça, on peut les aider.
Plus haut dans la vallée, je sens encore beaucoup d'inquiétudes très, très concrètes. Quand il pleut, quand la météo est mauvaise.
Oui, c'est très clair. Hein. Dès que vous avez un orage, l'idée revient. Hein. Oui, ça, c'est vraiment très clair. Je ne suis pas sûr que ça soit des traumatismes généralisés. C'est une angoisse, une inquiétude sourde, finalement. Les gens sont intranquilles. Parce que objectivement, on ne peut pas dire que ça ne se reproduira pas. Donc, qu'il faut aider les personnes à trouver les solutions pour se rassurer. C'est-à-dire, comment reconstruire ma maison? Où mettre ma chaudière? Où mettre mon compteur électrique? Comment m'inscrire sur BiAlert? Quels vont être les plans d'évacuation si jamais il y avait encore une évacuation? Vous voyez, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de ressources. Il faut les aider à mettre en avant leurs ressources. Voilà. Et voilà, c'est le job pour l'année prochaine.
Du travail pour l'année prochaine, c'est dit comme dans un souffle pour se donner du courage. Parce que Étienne Vendy va me le confier, attention surtout aux années qui viennent.
Ce qui a protégé les gens, ben c'est parce que les gens se sont réunis, ont parlé des problèmes, il y a eu beaucoup de solidarité. Et cette solidarité, elle doit perdurer. On doit reconstruire du collectif sur notre commune. Et ça, c'est quelque chose que nous observons. Pour le moment, on reconstruit différentes activités. Eh bien, le public ne se présente pas en masse. Fatalement, 500 personnes qui ne reviendront pas, 1000 qui sont encore à l'extérieur. Pour moi, ça, c'est fondamental dans les années à venir, reconstruire de l'associatif. Et pour ça, on a besoin de moyens. On a besoin de moyens parce que nous n'avons plus de locaux, nous n'avons plus de chapiteaux, nous n'avons plus de bâtiments. Il nous faut des moyens pour reconstruire l'associatif. Ou sinon, je pense que dans quelques années, on va avoir des conséquences psychologiques de ces inondations.
Nous voilà de retour en studio avec nos invités. Marie-Martine Schintz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parlementaire wallonne dans l'opposition pour le parti Les Engagés. Vous avez participé à la commission parlementaire qui a enquêté sur la gestion de cette crise. On y reviendra dans quelques instants. Fabien Beltran, bonjour. Vous êtes quant à vous le bourgmestre PS de la commune de Trou. Votre commune a été l'une des plus touchées par ces inondations. La moitié des habitants ont été sinistrés. Quelle est la situation dans votre commune aujourd'hui ?
Ben, les choses avancent lentement, malheureusement. Il faudra du temps, il faudra beaucoup de temps. Et comme le disait Monsieur Vassen en préambule, c'est dans la durée qu'on va devoir se projeter maintenant pour la reconstruction.
Quel est le plus gros défi auquel vous êtes confronté en ce moment ?
Le plus gros défi, c'est très simple à comprendre. Le budget annuel d'une commune, en tout cas comme la nôtre, en termes de travaux, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. Ici, pour les infrastructures publiques communales, il y a 62 millions d'euros de dégâts. Donc si on se projette, ça veut dire 1 million par an en général, 60 ans de travaux en perspective devant nous, ce qui n'est évidemment pas acceptable. Et donc, notre plus dur labeur, ce sera de réduire ce délai au plus court possible.
Vous êtes aidé pour ça ?
Nous sommes aidés par tout un tas d'aides financières, d'aides logistiques. Maintenant, c'est en termes de personnel que le problème se pose, évidemment, puisque, comme je vous l'expliquais, avec le million d'euros qu'on a annuellement, nos services ont déjà beaucoup de mal à le gérer. On multiplie ça par 60, mais avec toujours le même personnel, ça va être évidemment très compliqué. On va devoir sous-traiter beaucoup.
On l'a entendu dans le reportage, les habitants sont encore très marqués par cette catastrophe. C'est le cas dans votre commune, il y a encore beaucoup de détresse psychologique.
Oui, monsieur le Monsieur Vandy le disait dans le reportage, notre cellule psychologique tourne à temps plein parce qu'en effet, au-delà du traumatisme que certains ont vécu, de la perte peut-être d'un être cher, d'un voisin ou autre, c'est toute une vie de souvenirs qui a disparu, c'est sa maison qui a disparu, il faut reconstruire tout ça. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, les démarches sont extrêmement complexes, administrativement parlant, et puis psychologiquement parlant, à chaque pluie, c'est à nouveau un risque de débordement, les berges ne sont pas toujours terminées, il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là, et donc le stress est permanent, en effet, oui.
Marie Martinchins, on l'a dit, vous êtes parlementaire les engagés au Parlement de Wallonie, mais vous habitez cette fameuse vallée de la Vesdre, vous la connaissez particulièrement bien. Comment est-ce que vous, vous avez vécu ces inondations de l'été dernier ?
Alors, j'habite sur le plateau de Herve, et donc à une petite distance de la Vesdre. Et je l'ai vécu comme d'autres, avec beaucoup d'amis qui étaient inondés, avec un camp scout qu'on a dû aller évacuer, qui se situait à Jalais, l'endroit où il y a eu la plus grande quantité d'eau finalement le premier jour. Et puis après, je l'ai vécu comme parlementaire quand on a mené tout ce travail de la commission d'enquête en auditionnant quand même plus de 50 personnes, experts, mais aussi les bourgmestres qu'on a reçus dans la commission et qui nous ont vraiment éclairés sur le vécu quotidien. Et puis alors, en rédigeant ces fameuses 161 recommandations de la commission d'enquête.
Ce travail-là, il était nécessaire. Il y a des manquements qui ont été pointés dans la gestion de cette crise.
Alors c'était un travail indispensable et mon groupe l'a demandé dès le départ. La majorité au Parlement a validé ce travail de commission d'enquête. Et oui, je pense qu'à chaque étape, en fait, les alertes, la gestion du service hydrologique de la région Wallonne, et puis la gestion des barrages, et puis la gestion des secours et de la crise, à chacune de ces étapes, on a constaté qu'on pouvait mieux faire, qu'il y avait parfois des petits problèmes, parfois de graves dysfonctionnements. Et en listant tout ça, on arrive à un nombre important de recommandations. Alors c'est un enjeu, ces recommandations, parce qu'elles concernent aussi bien la manière de gérer la crise que la manière de modifier le système d'alerte, la manière aussi de modifier la réserve d'empotement du barrage. Et tous ces dossiers-là, il va falloir pouvoir les prioriser parce que on était demandeur d'avoir un timing et des délais. Comme l'a dit le bourgmestre de Trot, on se rend compte que tout prend du temps. Et on a l'impression parfois, quand on est loin de la vallée de la Vesdre, qu'on ne se rend pas compte de l'urgence qu'il y a encore aujourd'hui sur le terrain. Et donc toutes ces recommandations, il faut qu'on puisse les mettre en œuvre rapidement, surtout celles qui sont prioritaires.
C'est réaliste de mettre en œuvre 161 recommandations ?
Alors justement, c'est pour ça qu'il faut les prioriser. De notre côté, avec le groupe des engagés, on a fait ce travail. On dépose maintenant régulièrement des questions au gouvernement wallon pour vérifier la mise en œuvre de ces mesures. Je pense très clairement à l'exemple des barrages où aujourd'hui on est en été. Et la question se pose toujours, on l'a très bien entendu dans le reportage par Monsieur Mouzelard, sur ce double rôle du barrage, à la fois avoir suffisamment d'eau potable, mais aussi pouvoir faire diminuer les crues. Si les personnes qui sont aujourd'hui sur le barrage n'ont pas de marge de manœuvre, n'ont pas de souplesse parce que la note qui prévoit la réserve est ultra stricte, eh bien on a un barrage qui n'est pas agile, on a un barrage qui ne peut pas anticiper. Et ça, on devrait déjà pouvoir aujourd'hui avoir fait ce travail. Et là, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'a rien vu venir en termes de barrage pour le moment de la part du gouvernement wallon.
Fabien Beltran, quel regard vous portez, vous, sur le travail de cette commission d'enquête ?
Mais d'abord, je pense que c'était nécessaire déjà pour qu'une grande partie de la population puisse comprendre et savoir qu'on s'inquiète des problèmes et qu'on essaye d'y trouver des solutions. À côté de ça, il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes dans les recommandations que ça sera évidemment très simple à mettre en œuvre. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne dépendent malheureusement pas de l'autorité des bourgmestres et des communes en direct. Et nous attendons aussi avec impatience la mise en œuvre de l'ensemble des mesures qui vont être prises en espérant que ça porte ses fruits. On ne le saura que si un jour, et je l'espère que non, une deuxième crue se reproduit. Mais voilà, nous verrons bien, nous en serons dans les recommandations à ce moment-là.
On est pratiquement un an après, jour pour jour. Quel regard vous portez sur l'année écoulée ou plutôt quel souvenir vous gardez de cette période-là ?
Je dirais que déjà la première chose, c'est que l'année écoulée, elle s'est déroulée en un claquement de doigts. Donc on est beaucoup au sein de mon administration et de mes collègues à se dire on a l'impression que c'était hier. Le souvenir que j'en garde, c'est l'impuissance qu'on a eue à vouloir aider les gens parce que nous-mêmes, on n'imaginait pas, en étant sur le terrain, l'ampleur des dégâts et on s'est retrouvé nous-mêmes coincés à un moment donné, donc on ne savait pas voir ce qui se passait autour de nous, les moyens de communication. Et donc le souvenir le plus marquant que j'ai, c'était de recevoir ces centaines et ces centaines d'appels de gens qui disaient « mais venez m'aider, je suis au rez-de-chaussée chez moi, je n'ai pas d'étage, je suis debout sur ma table, venez me sortir de chez moi » et on n'avait personne qui voulait y aller, qui savait y aller, qui pouvait y aller. Et donc c'est ça le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est de se dire que si on sort de là sans décès, on aura une chance incroyable. Et à Trot, c'est presque ce qui s'est passé. On a dû en effet dénombrer une victime et deux victimes indirectes. Et je pense qu'on a eu une chance incroyable.
Si malheureusement ces crues devaient se reproduire, est-ce que vous pensez qu'on pourrait mieux gérer les choses ?
Le premier aspect de la gestion, c'est la communication. Donc, je l'ai dit à la commission d'enquête, la veille au soir, le 13 juillet à 22h30, on annonçait une décrue de la Vesdre. Et donc, tout le monde est allé dormir sur ses deux oreilles. Et 3 heures après, c'était parti. La communication, pour moi, est importante. Le problème de la communication, c'est qu'elle doit se faire à un temps donné qui permet de prendre des mesures. Donc, si moi, on me dit, attention, dans une heure, il va y avoir une crue, c'est impossible. Donc, on a 100 km de voirie sur Trot. Vous devez passer avec ce qu'on appelle un parlophone à 3 km/h. Ça fait 30 heures pour faire le tour de la commune et dire aux gens qu'il faut évacuer en une heure. C'est impossible. Tout le monde n'a pas des moyens de communication modernes, que sont les réseaux sociaux et autres. Les réseaux de téléphone se sont très vite saturés. Donc je trouve que un des premiers aspects des recommandations, c'est la communication rapide et dans un temps donné qui permet de prendre des mesures pour protéger les gens.
Marie-Martine Chin, c'est un point qui a été jugé aussi prioritaire par la commission.
Alors, bien entendu que les alertes ont posé énormément de questions à chaque étape. D'abord, il y a l'IRM qui ne peut pas donner une alerte rouge 12 heures avant les événements, alors que 48 heures avant, il voit déjà qu'il peut se passer quelque chose de grave. Donc là, on n'enclenche déjà pas quelque chose. Et puis, on a un service hydrologique à la région Wallonne qui fait tourner des modèles. Et ces modèles, sur base des prévisions météo, donne une idée de ce que ça va produire en termes de ruissellement et de crue. Ces modèles-là, ils ne tournent pas 24 heures sur 24. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un agent de garde, il y a une veille. Mais la personne qui veille, elle doit dormir parce qu'elle est parfois de garde 3 jours de suite. Et donc ça, c'est une des premières recommandations. Il faut une garde réelle 24 heures sur 24 pour pouvoir faire tourner les modèles suffisamment tôt et pour pouvoir après enclencher toute la suite de la communication. Et là, le bourgmestre a raison, la suite de la communication, c'est quand le service hydrologique de la région Wallonne analyse quelque chose, la communication doit passer vers le centre de crise et puis le centre de crise vers les bourgmestres. Et là, ce qu'on a remarqué aussi, c'était que la manière de rédiger parfois ces communiqués, on est bourgmestre, on reçoit une information comme quoi il va y avoir X millimètres d'eau, en fait ça ne veut rien dire. C'est impossible pour un bourgmestre de savoir à quoi ça va correspondre comme hauteur dans sa propre commune. Et donc là, il faut un travail beaucoup plus fin. Et là, on doit reconnaître, et on le souligne au niveau du groupe des engagés, qu'il y a un travail déjà qui a été effectué par l'administration. Ils ont créé une cellule, qui est une cellule d'experts. Elle s'appelle CELEX. Elle a déjà fonctionné et on a de bons retours sur le terrain, notamment des commandants de pompiers, etc. Et cette cellule, alors, fait enfin, j'ai envie de dire, fonctionner de l'intelligence collective, avec à la fois l'IRM, des responsables du service hydrologique, et analysent la situation pour ensuite communiquer. Et ils se réunissent dès qu'ils constatent qu'il y a quelque chose d'un peu anormal. Elle est pour le moment expérimentale. Il nous semble que si ça fonctionne, il faut qu'elle puisse perdurer. Et on aura comme ça déjà un système d'alerte qui sera plus performant.
Alain Vassène, vous êtes journaliste à Investigation. Vous avez donc réalisé ce reportage. En retournant sur place, on a entendu encore ce qui marquait fort les habitants, c'est ce rôle du barrage et ce qu'on lui attribue comme responsabilité finalement dans ces inondations. C'est assez marquant parce que finalement, ce rôle, il est un peu biaisé.
En tout cas, l'image que les habitants en ont gardée, on a bien sûr le barrage pendant quelques heures dans la nuit du 14 au 15, doit laisser passer l'eau de la pluie qui continue parce qu'il est à saturation et qu'il ne peut plus rien retenir. Bien sûr, donc, il y a de l'eau pendant la nuit qui descend du barrage, mais à aucun moment le barrage n'ouvre des vannes, je dirais, pour refaire de la place pendant qu'il pleut. Ça aurait été insensé. Mais donc, dans la vallée, il reste cette idée que le barrage, qui pourtant n'est que sur le dessus de la vallée et évidemment ne filtre pas l'ensemble des pluies qui tombent pendant ces trois jours-là sur les 30 km de vallée. L'idée reste que le barrage a une responsabilité première. Il y a peut-être une explication à cela, elle est vaguement ébouchée dans le reportage que vous avez entendu. C'est que se dire qu'il y a eu une erreur humaine, d'une certaine manière, permet de s'apaiser un peu en se disant si vraiment le climat se déchaîne, mais que nous ne commettons plus cette erreur, nous n'en subirons pas des conséquences à ce point-là. Et ma foi, peut-être que ça fait partie de la reconstruction et qu'il faut admettre cela.
Fabien Beltran, vous avez aussi ce sentiment-là dans votre commune. Le barrage, c'est un des responsables de ce qui s'est passé?
Je dirais que dans 99% des cas, quand le sujet est abordé, c'est en effet la réponse qui est donnée. Et si, en effet, ça permet d'exorciser certaines choses et d'aller de l'avant, ben, pourquoi pas?
Est-ce que les habitants de votre commune sont revenus, ceux qui n'avaient plus de maison et qui ne savaient plus y habiter? Est-ce que depuis un an, ils sont revenus?
Ça, c'est un gros problème, justement. Il y en a qui sont revenus très vite et qui ont pris les choses à bras-le-corps. Mais il y en a d'autres pour lesquels les situations sont beaucoup plus complexes. Vous savez qu'Assuralia a signalé qu'il y avait 40% de personnes non assurées qui sont toujours dans l'attente des indemnités du fonds de fermeture. Ces personnes sont en général des personnes qui sont un peu plus paupérisées, donc qui ont des difficultés d'avancer des fonds et donc qui sont toujours en attente des montants du fonds des calamités pour pouvoir seulement débuter leurs travaux. Et donc il y a encore énormément de maisons pour lesquelles rien n'a encore été fait au jour le jour ici dans notre commune à Trau.
Ça veut dire que ce sont des habitants qui manquent dans votre commune, ce sont aussi des élèves qui manquent dans vos écoles.
Oui, en effet, suite à la crise des inondations, on a perdu 40% des élèves. Donc vous savez que les enseignants, le nombre d'enseignants est déterminé par le nombre d'élèves. Donc 40% d'élèves en moins, ça fait autant d'enseignants en moins. Mais malgré tout, les classes sont toujours là. Et donc ce sont aussi des élèves qui sont domiciliés ailleurs, qui se sont domiciliés ailleurs, mais qui viennent quand même à l'école chez nous. Et donc ce gel des périodes d'enseignants nous permet justement de pouvoir assurer une pérennité au niveau des écoles, de pouvoir les relancer. Et le gouvernement de la communauté française vient de prolonger en tout cas cette mesure partiellement pour encore cette année scolaire.
Il y a aussi tout l'enjeu des infrastructures scolaires. Tout à l'heure, Monsieur Beltran parlait de la reconstruction des bâtiments publics. Les écoles ont été particulièrement impactées aussi. On sait que ce n'est pas le même niveau de pouvoir. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui doit libérer des budgets. Je vois une commune comme Verviers. Elle vient de recevoir un soutien important pour reconstruire une école. Ça va prendre des années. En attendant, les élèves sont dans des systèmes de modules, parfois un peu moins confortables. Et puis surtout, on doit trouver des endroits pour les installer, ces modules. Et je sais qu'à Verviers, par exemple, ça pose des problèmes avec les riverains, pour les familles. On est dans une situation toujours de gestion de crise, en fait, aujourd'hui, un an après, pour tout un tas de secteurs. Je pense au secteur de l'enseignement. Certains clubs sportifs ou associations sont aussi dans des grandes difficultés. On l'a bien entendu d'ailleurs dans le reportage, c'est très compliqué de faire revenir de la vie associative dans certaines des villes, alors que c'est ça qui fait ce lien social, c'est ça qui recrée de la solidarité et qui permet aux gens peut-être de dépasser cette douleur et cette difficulté à vivre les inondations.
On est un an après, c'est toujours un moment anniversaire, on remet un peu la lumière sur cette région, sur les conséquences. Est-ce que ça permet d'apporter un nouveau soutien? Vous avez l'impression qu'à un moment, les gens oublient alors qu'il y a quand même encore de vrais besoins, Fabien Beltran, dans votre commune?
Les avis sont nuancés sur la question. Il y a certaines personnes qui ont vraiment envie de tourner la page et qui ne veulent plus qu'on leur parle de ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de se souvenir, besoin de se rappeler, besoin de commémorer quelque chose. Et donc, c'est quand même important, un an après, de ne pas oublier qu'il y a toujours des gens qui sont en difficulté, qui sont encore dans des situations extrêmement complexes et que le temps qui passe n'arrange pas les choses. Et donc, moi, je pense que les commémorations, en tout cas, se souvenir un an après, c'est très important et c'est surtout important pour les gens qui sont dans le besoin.
Vous pensez que votre commune, elle retrouvera un jour son visage d'avant ?
Ça, c'est sûr. La question, c'est quand?
Oui. Et quand?
Alors, je n'ai pas la réponse. Le plus tôt possible, et on fera tout pour que ça soit le plus tôt possible. Et je pense que nous ne devons pas retrouver le visage d'avant, c'est ça que j'ai expliqué. Nous devons trouver un visage meilleur que celui d'avant. Parce que les gens ne reviendront pas comme c'était avant, ils reviendront si c'est mieux qu'avant. Et donc le travail, c'est là qu'est la complexité du travail, c'est qu'il faut reconstruire, mais reconstruire en mieux. Et en plus sécurisant.
La question des assurances, la question des zones inondables, des terrains où on peut bâtir, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est un enjeu dans votre commune?
Il n'y a pas un jour qui ne se passe pas sans qu'on ait une deux, trois, dix questions sur le sujet. Sur le territoire de la commune de Trau, c'est 150 ou 180 permis chaque année délivrés depuis des années. Nous avions déjà abordé cette réflexion de longue date, nous, en imposant des citernes de récupération d'eau qui récupéreraient plus d'eau que ce que le terrain ne pouvait en contenir quand on y met une maison. La question des zones inondables, évidemment, ce n'est pas une question que la commune peut gérer elle-même, mais on est très, très, très attentif aux études et aux décisions que le gouvernement va prendre, et ça pose beaucoup de problèmes parce que on se rend compte que beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir reconstruire là où ils habitaient avant. Nous allons racheter d'ailleurs certaines maisons qui ont été détruites avec les montants qui nous ont été donnés, mais on aurait multiplié ce montant par 10, qu'on n'aurait pas encore eu assez. Et donc, mais la difficulté, c'est aussi de faire comprendre à certaines personnes que c'est leur vie qu'ils jouent en reconstruisant aux endroits où ils habitaient avant. Mais quand vous êtes attaché à votre terrain, à votre terre, à votre commune, à votre village, à vos voisins, c'est très, très difficile à expliquer. C'est un point très émotif pour eux de se dire « je vais abandonner ma maison ». Ici, tout le monde autour de la table ne peut pas s'imaginer de se dire « tout ce que j'ai construit là-bas depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, je dois tout abandonner pour aller ailleurs ».
Il faut faire mieux, Marie-Martine Chins, en matière de permis, en matière justement d'autorisation dans des zones qui potentiellement peuvent être inondées.
C'est un énorme enjeu, en fait, cet enjeu de la reconstruction, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal. Donc, le ministre de l'Aménagement du Territoire, il a rédigé une circulaire qui laisse de la marge de manœuvre aux communes. Alors, on se rend compte que des communes réagissent différemment, avec des sensibilités différentes, et qu'on reconstruit finalement à certains endroits sans avoir toutes les garanties. Et donc, pour nous, ce qu'il faut, c'est être plus rapide sur la nouvelle révision des cartes d'aléas d'inondation, y voir plus clair sur les zones rouges, jaunes, etc. Et puis mettre des normes, de vraies normes, dans un cadre juridique sûr, à savoir, quand vous êtes dans telle zone, vous pouvez construire, mais à certaines conditions. Il y a des modes de construction où on évite de mettre la chaudière à tel endroit, on peut rehausser certains étages. Et tout ça doit être précisé à travers des normes. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Alors je pense que les citoyens, et on en entendait une dans le reportage, ça fait un an qu'elle attend, elle ne sait pas ce qu'il va advenir de son terrain, de sa maison, ce qu'elle va pouvoir faire ou ne pas faire. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on est un an après et on a l'impression qu'à part la circulaire, mais qui n'a pas de force légale et qui pose des grosses questions dans les communes, il n'y a rien. Donc là, évidemment, il y a le master plan qui doit arriver pour tout le bassin de la Vesdre, mais c'est un expert qui va le faire avec l'Université de Liège, et ça va prendre du temps de nouveau.
En quoi ça consiste ?
Alors, ce master plan, il va évidemment analyser toute la vallée et voir quelles sont les zones les plus problématiques, et aussi bien prévoir comment on peut reconstruire que ce qu'on pourrait imaginer comme balise de protection. On pense au bassin de rage, on pense aux zones d'immersion temporaire. Tout ça doit être prévu parce que reconstruire, le bourgmestre a raison, on doit reconstruire mieux, on doit reconstruire aussi autrement. On doit éviter toutes les bétonisations qui ne sont pas forcément tout pile dans la vallée, mais qui sont ailleurs et qui ont des impacts sur le ruissellement de l'eau. Et là, pour le moment, très clairement, on n'a pas l'impression qu'il y a suffisamment de normes, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour prendre ces normes. Et on comprend que ce ne soit pas évident, autant pour les mandataires locaux que pour le gouvernement. Mais si on ne les prend pas, on s'expose encore à avoir de nouveaux problèmes. Alors peut-être pas dans les 5 ans. Et on est dépendant aussi d'autres conditions. Il n'y a pas que l'aménagement du territoire, mais c'est un pan important.
On sait qu'on est dans une période de réchauffement climatique qui amène des phénomènes climatiques plus intenses, que ce soit des sécheresses intenses, que ce soit des violentes inondations comme vous les avez connues dans la vallée de la Vesdre et un peu partout d'ailleurs en Wallonie l'année dernière. Est-ce qu'on a en Belgique développé maintenant une culture du risque ? Est-ce qu'on est prêt à affronter ces événements qui nous sont annoncés ?
Depuis la crise du Covid, il y avait une demande à nouveau de fournir un cadre légal sur le rôle du centre de crise wallon, quelles sont les fonctions de ce centre de crise, comment est-ce qu'il interagit avec le centre de crise fédéral, avec les provinces, les gouverneurs. Et le décret n'arrivait pas. Par contre, aujourd'hui, on a reçu cette annonce que le décret est rédigé, il est parti au Conseil d'État. Donc le gouvernement wallon a décidé de rédiger ce texte. Il était temps. Et puis après, il faudra voir comment on met en œuvre justement les compétences de ce centre de crise. Au-delà de ça, j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec une chercheuse du centre Spirale de Liège qui travaille justement tout cet enjeu de la culture du risque. Et elle disait que les communes étaient très demandeuses de se former davantage. Donc on sent, en tout cas dans toute la vallée, que les bourgmestres étaient déjà en partie formés. Ils ont fait la demande pour être formés avec soit une partie de leur collège, soit des agents, et notamment les agents PLANU, hein, donc, qui gèrent les urgences. Mais elle disait elle-même, on ne sait pas comment on va pouvoir fournir toutes ces formations rapidement. Donc à nouveau, il y a aussi des questions de moyens là, qu'on n'avait pas imaginées et qui se posent.
Fabien Beltran, vous êtes d'accord? Vous êtes preneur aussi de ce genre de formation au risque et à la culture du risque?
Non seulement on est preneur, mais je pense qu'on pourrait aussi apporter une plus-value en y apportant notre expérience de terrain, puisque nous... Passez-moi l'expression, on a été les pieds dans l'eau dès les premières secondes. Donc oui, on est preneur et on est aussi preneur de collaborer justement à l'amélioration de ça.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités, merci à Amaury Boucher pour son soutien technique et merci à vous qui nous écoutez.